السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on a rappelé la fois dernière que la dernière des expéditions qui a eu lieu juste avant la bataille de Uhud, c'est l'expédition Sariyatu Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu, l'expédition de Zayd ibn Haritha, qui devait intercepter la caravane commerciale d'été, Rihlatu Saif. Et ce fut un succès puisque Zayd ibn Haritha, accompagné de 450 compagnons, combattants et armés, ils ont réussi à prendre possession de cette caravane qui était, dont les richesses étaient estimées à 100 000 dinars. Évidemment, c'était une énième défaite cuisante pour les Quraysh qui, là, ont décidé d'accélérer les préparatifs de la vengeance. Et qu'à partir de ce moment-là, plus rien ne comptait si ce n'était la grande bataille qu'ils préparaient depuis un certain temps, la bataille de Uhud, même si pour eux, elle ne devait pas s'appeler Uhud, puisqu'ils considéraient, ils avaient l'intention, non pas de combattre à Uhud, puisque Uhud, c'est à la périphérie, à l'extérieur de Médina. Eux, ils voulaient raser la ville de Médine, de tous ses habitants. Donc, ils vont tout d'abord utiliser le jeu des alliances, pour avoir le plus de personnes possible qui puissent être aptes à combattre. Ils vont décréter d'abord la mobilisation dans toutes les tribus de Quraysh, et ils vont demander à ce que les tribus des Bani Kinana, c'est une grande tribu, ainsi que toutes les tribus des Tihama, des montagnes de Tihama, au sud de la Mecque, ainsi que ceux qu'on appelle Ahabish ou Quraysh, on avait expliqué la semaine dernière qui était l'Ahabish, ils vont les mobiliser. Et ils ont utilisé plusieurs moyens de propagande et d'incitation pour les mobiliser. Ils ont envoyé des gens. On avait dit, par exemple, ils avaient envoyé Amr ibn al-As chez les Tihama. On avait dit qu'ils avaient envoyé le poète Abu Azza, Amr ibn Abdillah al-Jumahi. Et vous rappelez que Abu Azza, Amr ibn Abdillah al-Jumahi, avait participé à la bataille de Badr. Et il avait été fait prisonnier par les musulmans. Et il avait imploré le prophète sallam de le libérer. Et il lui avait dit, je n'ai rien, je n'ai que des filles et je suis pauvre. Il n'y a personne qui va venir négocier ma rançon. Donc laisse-moi partir contre aucune rançon. Le prophète sallam lui a dit, je veux bien te laisser partir, mais à une condition, que tu t'engages et tu promettes que plus jamais tu n'utiliseras tes poèmes, ta langue, ton éloquence contre nous. Et encore moins que je ne te vois un jour devant nous en train de nous combattre. Parce que si je t'ai pardonné aujourd'hui, je ne te pardonnerai pas la fois prochaine. Et il a donné son engagement. Et le professeur Hassan l'a libéré. Et pourtant, Safwan ibn Umayyah va aller le voir, il va lui dire, tout le monde se mobilise. Les poètes, ils vont de leur rime et de leur éloquence, de leurs mots, et toi, tu refuses d'utiliser ton éloquence pour nous soutenir ? Il va dire, moi j'ai donné une parole. Je ne peux pas revenir sur cette parole. » Il va lui dire, « Pourquoi tu ne peux pas revenir sur cette parole? Tu crains quoi ?» Il dit, « Si je reviens sur cette parole et que je sois fait prisonnier ou que je sois tué dans la bataille, que va-t-il advenir de mes filles ? Parce que j'ai vu que lorsque j'étais prisonnier, personne ne s'est occupé d'elles et personne n'a pensé à moi. Tout le monde est venu négocier la libération de leurs proches et moi, personne n'est venu me négocier ma libération. » Et là, Safwan ibn Umayya va lui dire, « Si c'est ça que tu crains, alors je suis prêt à prendre en témoin toute la Mecque. Je suis prêt à prendre à témoin toute la Mecque que si tu nous soutiens à travers tes rimes, ta poésie et ton éloquence, eh bien, si on revient victorieux et que tu reviens sain et sauf, je ferai de toi un homme riche. Et si il t'arrive malheur, tu ne reviens pas vivant, je mettrai tes filles aux côtés de mes filles et elles ne manqueront que si mes filles doivent manquer de quelque chose. Est-ce que je peux faire mieux que ça ?» Et là, Abu Azza, Amr ibn Abdillah al-Jumahi va accepter de revenir sur son engagement. Il va partir chez les Bani Kinana et il va faire sa propagande et son incitation pour les mobiliser. Celui dont on n'a pas parlé la semaine dernière, c'est le poète Musafir ibn Abdi Manaf. Les Quraysh lui demandent aussi son aide, tout comme ils ont demandé l'aide des diplomates. On avait expliqué que Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, puisqu'il se convertira plus tard à l'islam, était un des diplomates les plus célèbres de la tribu des Quraysh. Diplomate, un émissaire, un ambassadeur. À chaque fois qu'il y avait une négociation ou quelque chose à demander à une autre tribu ou un royaume, ils envoyaient des diplomates, des émissaires qui savaient parler et qui étaient des stratèges politiques, qui savaient comment négocier. Et Amr ibn al-As, qui deviendra plus tard un compagnon, en faisait partie. Et lui, Amr ibn al-As, il va être envoyé aussi dans les différentes tribus, chez les Ahabish, chez les Kinana, chez les Tihama, pour les mobiliser. Et vous avez également le poète Musafir ibn Abdi Manaf. Pourquoi lui? Et d'abord, chez qui on l'a envoyé? Il a été envoyé dans une des branches de la tribu des Bani Kinana. Je vous ai dit, la tribu des Bani Kinana, c'est une grande tribu. Il y a plusieurs branches dedans. Et lui, il a un lien de parenté avec une branche des Bani Kinana, c'est les Bani Malik ibn Kinana, la branche des Bani Malik ibn Kinana. Et donc, il va être envoyé chez eux. Et il va faire son travail de propagande à travers son éloquence et sa poésie. Et il va réussir à les mobiliser. Et parmi un des poèmes qui est resté encore célèbre jusqu'à aujourd'hui, il est parti les voir et il leur a dit « Ya mal, malul hasabi al-muqaddam. Anshudu dhal qurba wa dhal tadhammam. Man kana dha ruhm wa man lam yarham. الحلف وسط البلد المحرم عند حطيم الكعبة المعظم. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il va les voir, il leur dit « Ya mal ». Quelqu'un qui comprend un peu l'arabe, il va dire « Ya mal ». Mal, c'est quoi? C'est l'argent, c'est la richesse. « Ya mal ». Donc on dirait qu'il s'adresse aux richesses. Non. Ici, c'est ce qu'on appelle « tarhim », c'est une règle de la poésie qui est permise pour les poètes de couper la dernière lettre. Quand elle est en trop par rapport au nombre de syllabes qu'il doit avoir et leur rime, ils ont le droit de couper la dernière lettre. Et en fait, ici, il parle à qui? Il parle au Bani Malik, on a dit. Donc il dit, il y a Bani Mal, en fait, pour faire référence à qui? Au Bani Malik, parce que le kaf est de trop. Donc il dit, il y a Bani Mal, en fait, pour s'adresser à eux. C'est comme s'il disait, il y a Bani Malik. Naam. Au vous, les Bani Malik, c'est ce qu'il dit, en fait. Mal al-hasab wal-muqaddam. Les maliks, la tribu des Bani Malik, al-hasab. Vous qui avez la notoriété. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais c'était ça la propagande. La propagande, c'était que on utilisait des mots pour vanter les gens, pour les gonfler, et après, c'était plus facile d'avoir leur accord et leur alliance. Al-hasab. Ya mal al-hasab al-muqaddam. Vous qui avez la notoriété, et qui êtes avant tout le monde, qui êtes les premiers à dire oui à tout. Quand on vous mobilise pour la bravoure et le courage, vous êtes les premiers. يمال الحسب المقدم. أنشد ذا القربى وذا التذمم. J'en appelle à ceux qui sont proches. Parmi les Bani Malik, et on a dit lui, il a un lien de parenté. J'en appelle à ceux qui sont proches, et à même ceux qui me détestent parmi vous. J'appelle tout le monde. Ceux qui sont proches de moi et ceux qui me blâment. Tout le monde. Non. Man kana dha ruhm wa man lam yarham. Ceux parmi vous aussi, j'appelle, qui font preuve de clémence, d'indulgence. Et même ceux qui ne font preuve de clémence avec personne. J'appelle tout le monde. Je mobilise tout le monde, Yarni. Al-Hilfa wasta al-balad al-muharram. Je vous appelle à venir vous allier au milieu de la terre sacrée, en parlant de la Mecque. Inda hatim al-Ka'bah al-mu'azzam. À l'endroit qu'on appelle al-Hatim de la Ka'ba qui est vénéré. C'est quoi al-Hatim ? Al-Hatim, c'est chez Hijr Ismail. Les Arabes avaient l'habitude de l'appeler Hijr Ismail, comme on l'appelle encore aujourd'hui Hijr Ismail. Et ils l'appelaient aussi Hatim, al-Hatim, Hatim ou al-Ka'ba. Hatim en arabe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la partie qui est détruite. C'est quoi Hijr Ismail ? C'est quoi Hatim al-Ka'ba ? C'est l'endroit quand vous voyez le Ka'ba, vous voyez les gens qui tournent autour de la Ka'ba, ça fait un cube. Et sur un des bords de la Ka'ba, il y a une sorte de cercle, hein, où les gens ils vont à l'intérieur de ce cercle, et ils font des doigts, etc. C'est cet endroit-là qu'on appelle Hijr Ismail, et c'est cet endroit-là qu'on appelle Hatim al-Ka'ba, l'endroit détruit de la Ka'ba. Parce qu'en fait, à la base, la Ka'ba, elle n'était pas carrée, elle était rectangle, elle était beaucoup plus large que ça. Et lorsque, par vétusté, elle commençait à tomber en ruine, la Ka'ba, et que les Quraysh ont décidé de la reconstruire, on avait parlé de cette histoire il y a quelques années quand on est arrivé aux 40 ans du prophète sallam. Quand ils ont décidé de la reconstruire, il fallait d'abord la détruire. Et ils avaient tous prêté serment devant la Ka'ba qu'ils allaient tous participer au financement de la reconstruction de la Ka'ba, toutes les tribus Quraysh. Mais ils avaient donné leur engagement qu'ils ne devaient utiliser que de l'argent propre, pas d'argent sale. Il n'y en a pas d'argent volé, pas d'argent qui provient de l'escroquerie ou des arnaques ou de l'usure, des intérêts. Il y en a, ils avaient leur commerce, c'était beaucoup ça. Et le problème, c'est que c'était des grands notables, des riches. Mais leur richesse, les principaux capitaux qu'ils possédaient, en grande partie, il était fait du haram. Donc ils sont venus avec l'argent, entre guillemets, halal qu'ils avaient, et ils l'ont donné, et ils ont réussi avec l'argent halal de tous les notables de Quraysh à reconstruire juste le cube qu'on a actuellement. Le restant, c'était soit ils allaient le faire avec de l'argent haram, soit ils s'arrêtaient là. Et par respect pour la Ka'ba, les idolâtres ont dit, on va s'arrêter, on ne va pas la reconstruire comme elle était, on se contente de ça, parce qu'on ne peut pas se permettre, c'est un endroit sacré, on ne peut pas la construire avec de l'argent haram. Ça, c'était les idolâtres d'avant. Ceux qui prétendent être musulmans aujourd'hui et qui organisent le pèlerinage. Attention, où est-ce que je vais là? Oh là là, les problèmes, oh oui, oui, oui. Non, reviens à Asi. Ala kulli hal. Donc, c'est pour ça que cet endroit-là, on l'appelle Hatim al-Ka'ba, l'endroit détruit de la Ka'ba, sous-entendu, l'endroit qui n'a jamais été reconstruit. C'est pour ça que quand on fait les règles du tawaf, c'est un endroit qui est vide, cet endroit-là. Mais quand on fait le tawaf, on ne peut pas couper cet endroit-là. Il faut tourner tout autour de l'arc qui vient contourner cette partie. Pourquoi ? Parce qu'un tawaf, pour qu'il soit considéré comme valide, il faut que ce soit... Que ce soit bien autour de la Ka'ba, pas à l'intérieur de la Ka'ba. On ne peut pas traverser la Ka'ba pour faire le tawaf. Non. Et ceux qui arrivent, c'est pour ça que les gens, ils aiment aller dans cet endroit-là et prier dedans, de rak'at. Ceux qui arrivent à prier dedans, c'est comme s'ils avaient prié où ? À l'intérieur de la Ka'ba. Parce qu'on a un hadith dans lequel Aïcha, l'épouse du prophète sallam, avait l'habitude d'aller dans la Ka'ba pour y prier. Et le prophète sallam la prenait par la main. Elle lui disait, je vois que tu veux absolument à chaque fois rentrer à l'intérieur de la Ka'ba pour prier deux unités de prière. Il la prenait, il la ramenait à cet endroit-là. Hajr Ismail, Hatim al-Kaaba. Et il disait, prie là, c'est comme si tu avais prié à l'intérieur, c'est la même chose. Non. Et comment c'est que la Kaaba ne s'ouvre pas pour n'importe qui? Enfin si, elle s'ouvre pour n'importe qui justement, mais pas pour les bonnes... désolé, j'ai encore... j'ai pas pris mes cachets avant de venir. Non. Ala kulli hal. On s'est compris. Non. Donc, en tous les cas, le commun des mortels, en se bousculant un peu, parce qu'il y a beaucoup de monde, ils peuvent quand même accéder à l'intérieur de la Kaaba en allant à Al-Hatim. Non. Al-Hijr Ismail. Ala kulli hal. Donc ça c'est Musafi' ibn Abdimanaf, c'est avec ce poème qu'il a incité la tribu, la branche des Bani Kinana, les Bani Malik ibn Kinana, il les a incités à se mobiliser, ils vont accepter la mobilisation. Et donc, ils vont partir. Et on avait dit 3000 hommes, 3000 combattants, armés jusqu'aux dents, parmi lesquels toutes les tribus Quraysh, les Bani Kinana, les Tihama, et aussi des hommes parmi Ahabish ou Quraysh. 3000 hommes, plus un groupe de femmes, plus les poètes, plus 700 boucliers, 200 chevaux, donc 200 cavaliers. Le chef des armées, c'est Abu Sufyan. Il est désigné comme chef des armées. Le chef des 200 cavaliers, c'est Khalid ibn al-Walid. Mais les cavaliers, comme ils sont 200, ils sont coupés en deux parties, deux groupes. Deux groupes de 100 cavaliers. Un groupe qui est tenu par le chef des cavaliers, c'est-à-dire Khalid ibn al-Walid. Et un groupe qui est tenu par Ikrima ibn Abi Jahl, le fils d'Abu Jahl. Et donc, ils sortent de la Mecque. Et les femmes qu'ils ont prises avec eux, leur rôle, c'est quoi? C'est de chanter des rimes pour galvaniser, pour attiser la soif de vengeance, pour pleurer et se lamenter pour les morts, puisque maintenant, là, on avait expliqué que parmi les mesures qui avaient été prises à la fin de la bataille de Badr, les Quraysh avaient l'habitude, quand ils perdaient des gens, quand ils vivaient des deuils ou des décès, de se lamenter pour leur mort, de faire des processions, et Abu Sufyan l'avait interdit. Il avait dit, gardez votre haine à l'intérieur. Si vous faites les processions et les lamentations, votre haine, vous allez la sortir à travers les pleurs et les larmes et les paroles. Donc gardez tout ça à l'intérieur de vous pour le sortir le jour de la vengeance. Et donc là, à partir de ce moment-là, il dit aux femmes, allez-y maintenant, vous pouvez vous lamenter. Rappelez dans vos rimes les gens qui sont morts. Et donc il passe de tribu en tribu en allant à Uhud, et il rappelle à chaque personne les gens qu'ils ont perdus à Badr pour attiser l'esprit de haine, de rancœur et surtout l'esprit de vengeance. La chef du groupe des femmes, c'est Hindou bint Utba, radiyallahu anha, puisqu'elle se convertira à l'islam plus tard. Mais à ce moment-là, elle est loin de vouloir se convertir à l'islam. Et c'est là où, subhanallah, Allah, il guide qui il veut. Il y a des gens qui vont avoir des rôles, en particulier dans la bataille de Uhud, comme on va le voir, comme Hind, comme Abu Sufyan, comme Ikrima, comme Safwan, comme la femme Barza, bint Mas'ud al-Thaqafi, ou comme Fatima, bint al-Walid al-Mughira. Ils vont avoir des rôles extrêmement hostiles. Et si on posait la question à n'importe quelle personne qui ne connaît pas la suite des événements, est-ce que ces personnes-là, à ton avis, ils peuvent être musulmans un jour? Ou ils peuvent mériter de se convertir à l'islam? Non seulement on répondrait « ils ne méritent pas » et « ils ne mériteront pas ». Et pourtant, toutes les personnes que j'ai citées, ils vont se convertir à l'islam. Bien des années plus tard, mais ils vont se convertir à l'islam. Le prophète Hassan va l'accepter. Il va oublier tout ce qu'ils vont faire à Uhud. Et ils vont en faire des choses. Donc Hindou bint Utba, c'est la chef du groupe des femmes. C'est elle qui leur dit quoi faire et comment faire et quoi dire. Il y a aussi parmi ces femmes les plus connues et les plus célèbres qui vont jouer un grand rôle dans cette bataille de Uhud, dans la galvanisation de l'esprit de vengeance auprès des hommes. Il y a Umm Hakim bint al-Harith ibn al-Mughira ibn Hisham. Umm Hakim bint al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughira. C'est qui cette femme? Cette femme, c'est la femme de l'épouse de Ikrimah ibn Abi Jahl. Ikrimah ibn Abi Jahl, comme son nom l'indique, c'est le fils d'Abu Jahl. Il a perdu son père, lui. Son père était le chef de la Mecque. Maintenant, c'est Abu Sufyan qui a pris sa place. Mais à Badr, et avant Badr, le chef de la Mecque et des Quraysh, c'était Abu Jahl. Il a été tué à Badr. Donc Ikrimah, il vient pour se venger. Et dans le groupe des femmes qui viennent pour galvaniser les hommes et attiser l'esprit de vengeance, il y a son épouse. Et ils se mariaient beaucoup de la même tribu et entre cousins et cousines. Et justement, son épouse, c'est qui? C'est sa cousine. Parce qu'Abu Jahl, c'est son oncle. C'est le frère de son père à elle. Donc, elle est mariée avec son cousin. Naam. Et plus tard, elle se convertira à l'islam. Quel jour elle va se convertir à l'islam? Le jour de la libération de la Mecque. Quand le prophète, on le verra plus tard, quand il va arriver à la Mecque, et qu'il va négocier, Abu Sufyan va venir et va négocier que la Mecque ne soit pas rasée, qu'il n'y ait pas d'effusion de sang à la Mecque, etc. Le prophète Sallam va accepter. Alors qu'il vient et qu'il peut prendre relever toutes les vengeances qui l'attendaient. Et pourtant, le prophète Sallam va accepter. Alors que Abu Sufyan n'a rien à offrir. À ce moment-là, comme on le verra à la libération de Abu Sufyan n'a plus rien à offrir, il a tout perdu. Et il est sûr d'avoir perdu la Mecque. Et le prophète Sallam, malgré tout, parce qu'on le dit et on ne cesse de le répéter, il n'a jamais cherché à faire couler le sang. Les seules fois où il a fait les guerres, c'est parce qu'on ne lui laissait plus le choix. Et donc là, quand Abu Sufyan va venir, il va dire « J'accepte de donner la ville à condition qu'on ne nous fasse pas la guerre », le prophète Sallam accepte immédiatement. Par contre, il dit « Il y a quelques hommes où eux, ils ont causé tellement de tort, ils ont tué tellement de personnes parmi nous que eux, je ne peux pas leur pardonner. Et si les musulmans les trouvent, je ne peux pas garantir que leur vie sera sauve. » Le professeur Sam le prévient. Pour qu'il les prévienne. Si vous restez là, vous, le lendemain, quand on va rentrer dans la Mecque, vous n'êtes pas concerné par cette négociation et cette entrée dans la ville en paix. Et parmi ces hommes, il y a qui? Il y a Ikrimah ibn Abi Jahl. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait à Ikrimah? Abu Sufyan, il le prévient. Il lui dit, toi, tu n'es pas concerné. Quand il arrive à Abu Sufyan et que sa femme, Hindou, bint Utbah, elle va l'humilier en public, hein, en lui disant, honte à toi, tu as livré la Mecque, tu l'as donnée sans livrer bataille, Al-Muhim, elle va l'humilier en l'insultant, en lui disant, tu viens avec ton gros ventre et ta moustache nous dire que tu as livré la ville de la Mecque et en échange, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu en échange? Rien. Et lui, il va dire, si, j'ai eu en échange quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait négocié en échange, lui? En échange, il avait négocié que celui qui est dans l'esplanade autour de la Kaaba, il a la vie sauve. Personne il ne peut être tué alors qu'il ne peut être combattu alors qu'il est devant le Masjid al-Haram. Donc il avait réussi à négocier ça. Il a négocié aussi que n'importe quel habitant de la Mecque, même idolâtre, même ennemi, qui est chez lui, dans sa maison, il est en sécurité. Personne ne peut lui faire du tort. Et il avait négocié, c'était important pour lui, qu'il fallait que son nom apparaisse quelque part. Il avait négocié que n'importe quelle personne qui se réfugie ou qui est à l'intérieur de la maison d'Abu Sufyan, de sa maison à lui, il est en sécurité. Et donc il dit à son épouse, au lieu de commencer par le fait que celui qui est dans le masjid al-haram, il est en sécurité, celui qui est chez lui, il est en sécurité, il commence par ce qui lui paraît à ce moment-là pour lui le plus important. Il dit, j'ai obtenu que celui qui rentre dans la maison d'Abu Sufyan, il est en sécurité, il ne lui arrivera rien. Et là, elle va l'insulter encore plus. Elle va dire, et ta maison, elle peut prendre les milliers d'habitants de la Mecque? Ils vont tous rentrer dans ta maison. Et là, il va dire, non, mais même ceux qui lui restent chez eux aussi sont en sécurité. Je l'ai obtenu, ça. Et j'ai obtenu que celui qui est dans le masjid al-haram, il peut pratiquer ses rites, il est en sécurité. Elle va continuer à l'insulter, il va lui dire, rentre à la maison. Et ils vont terminer leur querelle à la maison, même si finalement, elle va décider de se soumettre et de se convertir à l'islam. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il va négocier avec Abu Sufyan, il va accepter la négociation d'Abu Sufyan, il va lui dire certaines personnes, dont Ikrimah ibn Abi Jahl, eux, je ne peux pas leur laisser la vie sauve. Leur vie, yani, comme on dit en arabe, ahdara damahum. Il a rendu leur sang halal. Et quand le professeur Hassan va arriver à la Mecque, il va rentrer dans la Mecque, Ikrima ibn Abi Jahl prend ses jambes à son cou et il fuit. Et le problème, à cette époque-là, c'est que non seulement la Mecque est perdue, il ne peut pas se permettre d'aller dans une des seules grandes villes qui refuse de se soumettre à l'islam à cette époque-là, c'est qui ? C'est la ville de Taif, au sud de la Mecque. Pourquoi il ne peut pas se permettre d'aller là ? Par fierté. Il y en a la ville de Taif et la ville de la Mecque, c'est deux villes rivales. Ils sont tous les deux des villes idolâtres à l'époque, mais c'est des villes rivales dans le sens où chacune, elle veut être plus forte et elle veut montrer qu'elle est plus forte que l'autre. Donc lui, le fils du grand chef, Abu Jahl, de la Mecque, qui a toujours été dans la rivalité avec les Taïf, il ne peut pas se permettre d'aller demander, quémander la protection de Taïf. Donc il va plus au sud, il va vers le Yémen. Et même là, il ne se sent pas en sécurité. Il sait que s'il est trouvé, il va être tué. Et sa femme, elle est restée. C'est qui sa femme ? Sa femme, c'est Umm Hakim bintul Harith, Ibn Hisham, Ibn al-Mughira, celle dont on parle qui va partir à la bataille de Uhud. Et elle ne va pas prendre la fuite. Elle va rester à la Mecque. Elle va dire, on n'en peut plus de toutes ces histoires. Et elle va même conseiller à son mari de rester. Et lui va dire, non, Abu Sufyan, il m'a prévenu, si je reste, je suis foutu. Et donc il part. Et elle reste. Et la première chose qu'elle fait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre à la Mecque, c'est qu'elle sort de chez elle et elle se rend auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui dit, « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. » J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah et j'atteste que tu es le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu lui dire, parce que je vais revenir sur le rôle qu'elle va jouer avec les autres femmes à la bataille de Uhud. Tu crois que j'ai oublié ce que tu as fait à Uhud ? Ah ? Tu crois que j'ai oublié ce que toi et ton mari, ce que vous nous avez fait subir pendant tant d'années ? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte. Et elle lui dit, pour tout ce que j'ai fait, pardonne-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, l'islam efface ce qui s'est passé avant. Tu n'as même pas demandé pardon. Et elle va dire, j'ai une requête. J'ai une demande à te faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, je t'écoute. Elle va dire, tu as rendu halal le sang de mon mari. Permets-moi de le faire revenir sous ta protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, si toi tu veux lui donner ta protection, alors ma protection et la tienne sont les mêmes. C'est-à-dire, si tu veux donner ta protection à ton mari et qu'il revienne sous ta protection, je dis aux gens et j'affirmerai à tout le monde que Ikrima rentre à la Mecque sous ma protection à moi et personne ne pourra le toucher. Alors elle va dire, c'est ce que je veux. Le professeur Hassan va dire, Ajarna man ajarti. Nous donnons la protection à celui à qui tu as donné ta protection. Et il va informer ses compagnons. Ikrima ibn Abi Jahl, si vous le trouvez, si vous le croisez, laissez-le tranquille. Nous lui avons donné notre protection. Et elle va partir dans ce long voyage pour retrouver son mari, qui lui se cache et qui n'a plus confiance en sa femme. Parce qu'on lui a dit, ta femme s'est convertie à l'islam. C'est tout, ils l'ont détourné. Et donc lui, il sait que sa femme le cherche, mais il a peur que ce soit un piège. Jusqu'à ce qu'elle arrive à le trouver, qu'est-ce qu'on lui donne le tuyau, on lui dit, il est dans une ville côtière au Yémen et il s'apprête, dès qu'un bateau va arriver pour partir vers l'Abyssinie, à embarquer pour se sauver en Abyssinie, en Afrique. Yani. Tellement il était terrorisé, il voulait partir le plus loin possible. Et donc là, au moment où il va vouloir embarquer, sa femme va le retrouver. Et elle va lui expliquer. Elle va lui dire, cet homme est mieux que nous. On lui a fait beaucoup de tort et pourtant il accepte de te donner la protection. Rentre. Et il va avoir peur, il ne va pas la croire. Et elle va jurer que c'est vrai, etc. Jusqu'à ce qu'elle va réussir à le convaincre et il va rentrer avec elle. Quand il va rentrer avec elle, il a quand même peur. Donc il va tout de suite chez lui. Il se réfugie chez lui et il ne se montre pas. Jusqu'à ce que le prince Hassan va dire à sa femme, pourquoi ton mari ne sort pas ? On lui a donné la protection, c'est bon. Et là, il va venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Va lui dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pourquoi tu sors pas là? Khlas, il n'y a rien qui peut t'arriver. Il dit, s'il voulait faire quelque chose, il sait que tu es chez toi. Il t'aura envoyé des hommes. Tu es protégé, c'est fini. Et donc là, il va sortir de chez lui et il va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne va pas oser entrer. Et sa femme va lui dire, rentre. Il va dire, après tout ce que j'ai fait, je vais rentrer comme ça chez lui et m'adresser à lui. J'ose pas. Et donc elle va lui dire, eh bien, attends ici. Et elle va rentrer chez le professeur sallam, elle va dire, Ya Rasulallah, il y a mon mari qui est à la porte et il n'ose pas entrer. Et il veut parler avec toi. Le professeur sallam va lui dire, dis-lui qu'il est invité. Il est le bienvenu. Et il va rentrer. Je vois comment le professeur sallam, il agit avec ceux qui étaient ses pires ennemis. Ceux qui ont tué, ceux qui ont terrorisé, torturé et tué, ceux qu'il a aimés, chéris. Le professeur sallam va le faire rentrer. Et qu'est-ce qu'il va lui dire à Ikrima ibn Abi Jahl? Il va lui dire « Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah. Wa ashhadu annaka rasulullah. Et j'atteste que tu es le messager d'Allah. Wa ashhadu annaka akramun nas. Et j'atteste que tu es le plus noble des gens. » Et il voit dans son comportement comment il est le professeur Hassam avec lui. J'atteste « Ashhadu annaka akramun nas. Wa abarrun nas. » Et le plus pieux des gens, le plus bienfaisant des gens. Wa annaka awfa an-nas. Al-awfa, c'est celui qui remplit ses engagements. Et que tu es celui qui remplit plus ses engagements que quiconque. Non. C'est comme ça que le professeur Hassan gagnait le cœur des gens, à travers son comportement. Non. Et ensuite, il se convertit à l'islam et ils vont jouer un grand rôle, lui et sa femme, dans les batailles qui vont avoir lieu après. Après ça, et même après la mort du professeur sallam, Ikrim ibn Abi Jahl, radiallahu anhu, il va mourir martyr dans une grande bataille plus tard. Non. Donc, en tous les cas, pourquoi je suis parti, je me suis évadé, et c'était pour parler de cette femme qui va participer au groupe des femmes, à la femme de Ikrim ibn Abi Jahl, Ummu Hakim, Bintul Harith, Ibn Hisham, Ibn al-Mughira. Et ses parents aussi vont participer à la bataille de Uhud, les parents de cette femme. C'est qui les parents de cette femme? Ben c'est Al-Harith ibn al-Mughira, ibn Hisham ibn al-Mughira, qui est le frère d'Abu Jahl. Et il vient pour venger son frère. Et il y a sa mère aussi qui vient et qui est dans le groupe des femmes. Sa mère, c'est qui? C'est Fatima bintul Walid ibn al-Mughira. Ça ne vous dit rien, bintul Walid ibn al-Mughira? Ça ressemble à Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira. Eh bien, c'est sa sœur. C'est la sœur de Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira. Elle aussi, elle va être là dans le groupe des femmes. Et vous avez aussi l'épouse de Safwan ibn Umayya, qui est Barza bint Mas'ud al-Thaqafi. Elle va être dans ce groupe. Tout comme il y a Raita bint Munabbih ibn al-Hajjaj. Elle a perdu son père à la bataille de Badr. Munabbih ibn al-Hajjaj est mort à la bataille de Badr. Et elle, c'est l'épouse de qui? C'est l'épouse du diplomate, de l'émissaire, Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qui se convertira à l'islam plus tard. Et donc elle aussi, elle est dans le groupe des femmes. Ala kulli hal, on ne va pas toutes les citer, mais ça, c'est les plus importantes. Et celles qui vont jouer un grand rôle, parce que c'est les femmes des notables, les femmes des chefs. Naam. Ensuite, il y a un homme, Jubayr ibn Mut'im. Cet homme parmi les Quraysh, il vient à Uhud pour venger son oncle, le frère de son père. Son oncle, le frère de son père, Tu'aymat ibn Adi. Il a été tué à Badr. Et il veut être sûr que sa vengeance soit complète. Et lui, il a un esclave qui s'appelle Wahshi ibn Harb. Wahshi ibn Harb, c'est son esclave, c'est un jeune esclave noir. Et il va lui dire, إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. Si tu tues Hamza, l'oncle de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, contre mon oncle qui a été tué à Badr, il n'y en a pour venger mon oncle qui a été tué à Badr, alors tu es libre. Khalas. Tu es libre. Tu ne seras plus esclave. Tu veux gagner la liberté? Tu l'oncle de Mohammed, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour venger mon oncle qui a été tué à Badr. Et Wahshi va accepter. Et il va l'entraîner au tir à la lance pour être. Il va lui dire, toi, ton travail, ce n'est pas de participer à la bataille. Tu as une seule mission à remplir. Tu viens avec nous, on te montre qui est Hamza et tu te débrouilles pour le tuer. C'est tout. On n'attend rien d'autre de toi. Et il va accepter, il va aller avec eux. Et on verra plus tard, mais il va remplir sa mission. Il va tuer Hamza. Et pourtant, cet homme, il se convertira plus tard à l'islam. Ajib. Qui l'eût cru ? Et quelle va être la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il va rentrer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il voudra se convertir à l'islam en étant terrifié parce qu'il sait ce qu'il a fait. Mais en même temps, il veut se convertir à l'islam et il est obligé de se présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir à l'islam. Donc il y va tout en se disant peut-être que malgré tout, je vais être tué. Parce que c'est très grave ce que j'ai fait. J'ai tué l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va lui dire Ash'hadu an la ilaha illallah. À ce moment-là, le professeur Hassan ne l'a pas vu arriver. Le professeur Hassan est assis, il ne le voit pas arriver. Et lui, il est debout, et au moment où il arrive à côté de lui, il lui dit Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu annaka rasulullah. Le professeur Hassan lève la tête et il voit que c'est Wahshi, mais il a un doute. C'est gros quand même qu'il vienne jusqu'à lui pour se convertir à l'islam. Donc il a un doute. Il lui dit Anta Wahshi ? Tu es Wahshi ? Il va lui dire oui. Le professeur Hassan va dire assieds-toi. C'est toi qui as tué mon oncle Hamza. Il va lui dire oui. Il va lui dire raconte-moi comment ça s'est passé. Non. Le professeur Hassan a besoin de faire son deuil. Il aimait son oncle. Et il va lui expliquer, il va lui raconter. Et ensuite, le professeur Hassan va lui dire bienvenue dans l'islam. Et l'islam efface tous les méfaits, tous les péchés commis avant. Et la seule chose que je te demanderai, c'est de te voir le moins possible. Yann, à te voir, ça me rappelle que tu as tué mon oncle. Et je suis obligé de l'accepter. À partir du moment où Allah t'a guidé, je ne... Khalas. Et Wahshi, il aura l'habitude, il va vivre jusqu'à après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va participer à une des plus grandes batailles que va mener le calife Abu Bakr. Il va participer à la bataille de Al-Yamama contre le faux prophète Musaylimatul Kadhab. Et c'est lui qui va tuer Musaylimatul Kadhab. Et il montrera à partir de ce jour-là son épée, il dira, certes cette épée elle a tué le meilleur des compagnons, mais elle a aussi tué le pire des menteurs. Donc, on est quitte, entre guillemets. J'ai, entre guillemets, réparé ma faute. Non. Tout ça pour dire que Jubayr ibn Mut'im va prendre son esclave Wahshi qui l'a entraîné au tir à la lance et il va lui dire si tu arrives à tuer l'oncle du professeur Hassan Hamza tu es libre. Et cette armée de 3000 hommes comme on a dit avec plein de haine, plein de vengeance, plein d'impatience à vouloir faire couler le sang et même faire couler le sang ne leur suffira pas. Puisqu'ils auront les cadavres, les corps des musulmans, et ils vont les mutiler. Tellement la haine, elle va aller loin, Yahni. Et d'ailleurs, sur le chemin, ils vont camper dans un endroit qu'on appelle Abwa. Et dans cet endroit, c'est un endroit, quand on voyage entre Médine et la Mecque, que ce soit en allant de la Mecque vers Médine ou de Médine vers la Mecque, c'est un endroit où les voyageurs ont l'habitude de s'arrêter. C'est un endroit connu aujourd'hui à ce qu'on appelle les stations-service. Avant, à travers le désert et les routes du désert, il y avait des endroits où les gens ils avaient l'habitude, c'était à des points d'eau, ils avaient l'habitude de camper pour recharger en eau, en vivres, etc. Et l'Abwa fait partie de ces endroits-là. Et donc l'armée idolâtre campe à l'Abwa. Et il se trouve que l'Abwa, c'était là qu'avait été enterrée la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Amina bint Wahb. Vous vous rappelez que on avait expliqué que le professeur sallam, quand il était enfant, il avait à peine 6 ans, il a perdu sa mère. Lorsqu'il revenait d'un voyage de Médine avec sa mère, puisque sa mère avait de la famille, elle était originaire de Médine, il revenait d'une visite de Médine et elle est tombée malade sur le chemin, et elle est morte sur le chemin et elle a été enterrée dans cet endroit, l'Abwa. Et quand ils vont camper là, les Quraysh, Hind bint Utbah, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire à son mari Abu Sufyan, nous sommes à l'Abwa. Oui. N'est-ce pas ici qu'a été enterrée la mère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Abu Sufyan va dire oui, c'est ici. Déterrons son corps et découpons la en morceaux. C'est ce qu'elle va proposer. Hind bint Utbah, radiyallahu anha, parce qu'elle va se convertir à l'islam plus tard. Et Abu Sufyan va dire, il va voir, il va être séduit d'un côté par l'idée, mais d'un autre côté, il a peur des conséquences. Il se dit quand même, c'est un acte grave. Est-ce qu'on doit aller jusque-là? Mais elle, Hind bint Utbah, à ce moment-là, c'est qui parle? C'est une femme qui a perdu son père, qui a perdu son oncle, qui a perdu son frère. Donc elle est pleine de haine et de vengeance. Et elle veut au plus vite faire quelque chose pour rassasier sa soif de vengeance. D'ailleurs, elle dira, on a parlé de Wahshi, surtout le chemin. À chaque fois qu'elle voit Wahshi, elle sait c'est quoi la mission de Wahshi. C'est de tuer Hamza. Et à chaque fois qu'elle le voit, elle lui dit Abad Dasma. Parce que le surnom de Wahshi, c'est Abu Dasma. Elle va lui dire Waiha Abad Dasma. Ishfi wastashfi. Ô toi, Abu Dasma, guéris et va chercher la guérison. C'est-à-dire guéris nos cœurs de cette soif de vengeance qu'on a. Et va chercher cette soif de guérison. Fais-le. Yani, va tuer Hamza pour qu'enfin on soit rassasié. C'est comme si c'est quelqu'un qui a extrêmement soif. Il attend juste qu'on lui donne un peu d'eau à boire. Et donc elle lui dit, rassasie-nous, donne-nous. Donc Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, je vais d'abord m'entretenir avec les autres notables de la ville, de la Mecque, pour voir ce qu'ils en pensent. Et il va leur dire, nous sommes à l'Abwa. Et vous savez que c'est ici qu'a été enterrée la mère de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ma femme m'a proposé de la déterrer, de la découper. Comme ça, s'il faut encore des prisonniers, regardez jusqu'où ça a été l'idée. S'il faut encore des prisonniers, ils ne verront pas un centime de nous. On lui donnera des bouts. Yani, des morceaux. Tu veux la récupérer? Alors contre un morceau, contre un prisonnier. Non. Alors ces versions, elles ne sont pas forcément authentifiées, mais en tout cas, les historiens racontent ces versions-là. Ala kulli hal, en discutant entre eux, les notables de la Mecque, ils vont dire, ça c'est une limite qu'on ne peut pas franchir. Nous aussi, nous avons des gens qui sont morts, qui sont enterrés. Est-ce qu'on accepterait qu'on fasse ça à nos morts? Non. Vengeons-nous, tuons-les, mais les morts qui sont enterrés, laissons-les là où ils sont. Et surtout, ils vont dire, sa mère, quand elle est morte, il ne se disait pas encore prophète. Donc on ne peut pas lui en vouloir à elle. Elle n'était pas, entre guillemets, elle n'était pas musulmane. Donc, cette idée, elle leur est passée par la tête, mais ils ne vont pas la mettre en application. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe à Médine? Les informateurs que le professeur Hassam envoie en éclaireur dans le désert, ils viennent voir le professeur Hassam et ils disent, depuis l'expédition de Zayd ibn Haritha qui a pris possession de la caravane commerciale de l'été, ils vont dire, il y a quelque chose qui se passe à la Mecque. Les rumeurs disent qu'ils sont en train de attiser, de galvaniser toutes les tribus, les Bani Kinana, l'Ahabish, les Tihama. Donc il se passe quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Mais quoi exactement? Où? Ça, on ne sait pas. Le professeur Hassem commence à être inquiet. Mais il n'y a pas encore une information claire qui lui dit qu'il y a une armée de 3000 hommes, etc., etc. Dès que l'armée des Quraysh sort de la Mecque, il y a qui à la Mecque? Il y a l'oncle du professeur Hassan al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui lui, on avait dit, on ne sait pas à partir de quand exactement il était musulman, c'était soit avant Badr et il cachait son islam, soit depuis la bataille de Badr où il avait été fait prisonnier. Mais les gens de la Mecque ne savent pas qu'il est musulman. Il cache son islam. Donc lui, quand il voit que toute l'armée a été organisée, il regarde combien ils sont, 3700 boucliers, 200 cavaliers, le chef, les femmes, etc. Il prend toutes les informations et il choisit un homme de confiance et il le paye pour arriver le plus vite possible à Médine et pour ramener cette information capitale, pour que les musulmans et le professeur Hassan se préparent à l'arrivée de cette armée qui ne cherche qu'une chose, c'est à raser la ville de Médine, il lui dit, il faut que tu battes tous les records de traversée du désert entre la Mecque et Médine. Arrive-y le plus vite possible, pour qu'ils puissent se préparer le plus vite possible. Et alors que c'est un voyage qu'on fait généralement en une semaine, voire 10 jours, à plus de 500 km entre Mecca et Médine, il va le faire en 3 jours. C'était le maximum qu'on puisse faire. Il va le faire en 3 jours et il va arriver à Quba. Il va arriver un samedi, parce que tous les samedis, le prophète avait l'habitude d'aller à Quba. Donc il va arriver à Quba et va dire, je veux voir le prophète. Les gens vont voir qu'il est en panique et qu'il n'a pas eu le temps de se changer, qu'il a couru à travers le désert sur sa monture. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne peux rien dire, je dois juste voir le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Abbas va lui dire, c'est une information secrète, ne la donne à personne d'autre qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et va dire, ton oncle al-Abbas m'envoie avec des informations et il m'a dit qu'elles sont secrètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sortir de la mosquée de Quba et il va appeler Ubay ibn Ka'b, le compagnon Ubay ibn Ka'b. Il va lui dire, lis-moi la lettre que l'Abbas m'a écrite. Et dans la lettre, l'Abbas lui explique, une armée vient de sortir. Demande à l'homme que j'envoie à quel moment il est sorti de la Mecque pour que tu saches à quel moment cette armée est sortie. Donc il va lui dire, ça fait 3 jours que je suis sorti. Donc ça fait 3 jours que l'armée est sortie. Une armée de 3000 hommes. Ils ont pris même des femmes avec eux. Ils cherchent à tout prix à se venger et leur objectif, c'est de raser la ville de Médine. Et au moment où tu recevras cette lettre, si tu la reçois, je ne sais pas où ils sont. Je suis incapable de te dire où ils sont, est-ce qu'ils sont bientôt arrivés à Médine ou pas. Le professeur Hassan va regarder Ubay ibn Ka'b et va lui dire, garde cette information secrète, n'en parle à personne. Le professeur Hassan, immédiatement, il écourte son passage à Quba et il rentre immédiatement à Médine et il convoque les principaux compagnons chefs des Ansar, les compagnons de Médine, les compagnons de la Mecque, le Muhajirun. Il les convoque et il leur dit, je viens de recevoir une information. Cette information, elle est grave. On vient de m'annoncer qu'une armée de 3000 hommes se dirige droit vers nous. Ils sont déjà partis depuis 3 jours de la Mecque. Et ils se dirigent et leur objectif, c'est de raser la ville de Médine et de tuer tout le monde. Hommes, femmes, enfants et alliés. Même les tribus juives qui sont alliées en apparence au prophète Hassan, mais qui pourtant, en secret, avaient des négociations avec les Quraysh et étaient alliés avec les Quraysh, ils ont promis qu'ils ne feront de quartier à personne. Parce que les Quraysh les soupçonnent de jouer un double jeu. Et donc, le prophète Hassan va leur dire, qu'est-ce qu'on fait? Le prophète Hassan va leur dire, la première chose à faire, avant de réfléchir à ce qu'on va faire face à cette armée, on ne sait pas où ils sont. Peut-être qu'ils sont bientôt à Médine. Peut-être qu'ils sont encore loin, on a encore le temps de nous préparer. On n'en sait rien. Donc première chose, envoyer un groupe d'éclaireurs pour aller essayer d'avoir des informations pour voir où est-ce qu'ils sont et vers où ils se dirigent et quelle route ils ont pris. Donc le professeur Hassan m'a envoyé immédiatement des informations, leur dire faites attention, ils sont 3000, ils pourraient vous capturer, etc. Essayez de trouver des informations sur cette armée, elle est arrivée où? Deuxième chose, les compagnons, eux, prennent l'initiative de dire ils sont peut-être pas loin. Ou ils ont peut-être, même si une armée de 3000 hommes, ce n'est pas facile à faire déplacer à toute vitesse. Peut-être qu'ils se déplacent tranquillement, mais qu'ils ont déjà envoyé, parce qu'ils savent, avec les informations de l'Abbas, qu'ils sont 200 cavaliers, ils ont peut-être envoyé les cavaliers avant. Les cavaliers, ça va vite. Et peut-être que ces cavaliers, ils vont arriver avant. Peut-être qu'ils vont chercher à tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils désignent 3 compagnons parmi les Médinois, Sa'd ibn Ubadah, Sa'd ibn Mu'ad et Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhum pour être les gardes du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam au cas où il lui arriverait un mal. Ensuite, il divise les personnes en quartiers et des groupes à la périphérie de Médine pour protéger la ville de Médine. Parce qu'ils ne savent pas, ils se disent on pourrait être attaqué par surprise. On ne sait pas où ils sont, ces cavaliers, etc., cette armée. Et tous les habitants de la Mecque prennent leurs épées, ils sont informés, la mobilisation générale est décrétée. Mais comment ils vont faire, ça ils ne savent pas encore. Mais le professeur Salam décrète la mobilisation générale et il décrète ce qu'on appellerait aujourd'hui l'état d'alerte maximum. Tout le monde doit être en état d'alerte. Et faire attention, ils pourraient nous attaquer par surprise à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Donc il y a des comités de quartier qui surveillent les quartiers, comme je vous ai dit, des groupes qui viennent surveiller aux périphéries de la ville, les informateurs qui sont partis chercher les informations dans le désert. Non. Et finalement, le professeur Hassan va avoir des informations sûres qui vont lui parvenir du désert. Et donc, comment il va réagir face à ces informations? Déjà, quelles vont être ces informations exactement? Où est l'armée? Vers où va-t-elle? Et que se passe-t-il exactement dans cette armée? Ça, c'est tout ce que nous verrons la fois prochaine. Bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.